Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 79. Je vous le dis par le truchement de Claire Pedotti. Liebe Freunde, hallo. Hello, dear friends. Queridos amigos, hola. Cari amici, ciao. Kin ai de pinyong men ni hao. Alors, ça, c'est censé être du chinois. Shin ai nuru yu ying tashi konnichiwa. Ça, c'est du japonais. Lieb Freund est là. Chers amis, bonjour. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de langage. Et comme notre émission, vous l'avez bien connu, se consacre à l'évocation du temps perdu, nous avons une invitée qui fait un métier qui va bientôt disparaître. Alors, je la vois en train de protester du regard. Celui d'interprète. Interprète traducteur. Alors, ce n'est pas vraiment le même métier, mais il s'agit toujours de passer d'une langue à l'autre. Alors, pourquoi ? Mais pour se comprendre, et aujourd'hui, on va sur Internet et on trouve toutes les langues en un seul clic. Bonjour Claire Pedotti.
Bonjour Ambroise.
Alors, je vais dire que vous êtes un dinosaure.
Absolument, je suis comme les tisserands anglais du début du 18e siècle, 19e siècle, qui se sont rebellés contre les métiers à tisser.
Donc vous êtes pour le progrès, mais on va voir ça tout de suite. Mais alors, les auditeurs
pour le progrès,
connaissent votre belle voix, parce que dans les tout premiers épisodes, vous l'avez bien connu, vous avez été une de nos sublimes complices. Voilà. Alors, très gentiment, bien sûr, parce que dans l'émission, nous avons déjà invité une archiviste, c'était Karine Fogel, une spécialiste des neurosciences et de la notion du temps présent, Anne Girsch, une anthropologue pour qui 40 000 ans, c'était hier, Evelyne Heyer, une docteure en sociologie spécialiste de l'argent et, on le sait, le temps c'est de l'argent, c'était Jeanne Lazarus, un journaliste qui met en boîte des témoignages sur l'Alsace à écouter dans 100 ans, c'est Christian Hahn, un historien de Strasbourg que l'on connaît bien sur Radio Judaïca Strasbourg, et bien c'est Robert Betcha, un écrivain de polar fouilleur de vieux journaux, Jacques Fortier, une chanteuse dans les EHPAD, vous savez, les petits vieux qui rajeunissent, et bien c'est Vanina Chemouni, une spécialiste des vagues migratoires, Ségolène Player, une guide du musée de l'image du 19e siècle à Pfaffenhofen, Catherine Keith, la responsable de la maison rurale de Kützenhausen, Eva Roy, et donc aujourd'hui une traductrice, Claire Pedotti. Avec tous les trucs de l'intelligence artificielle, c'est un métier qui va disparaître.
Oh, c'est un métier, oui, dans une certaine mesure, et non dans une autre. Hein. C'est-à-dire que ça dépendra des textes à traduire, ça dépendra des organisations qui emploient des traducteurs. Je veux dire, ça dépendra comment on conçoit ce métier de l'intermédiaire, du passeur. Pour revenir à votre titre, le truchement, c'était la manière dont on appelait, dans l'Empire ottoman, on les appelait les drogman. Qui viennent du même terme arabe hein, au départ.
Hein. Drogeman, oui.
Oui, c'est... qui est devenu truchement en français. Donc maintenant, quand on parle de truchement, on dira par le truchement d'un tel, j'ai pu atteindre tel ou tel... ou rencontrer tel ou tel personnage. Mais à l'époque de l'Empire ottoman, il y avait d'ailleurs des postes de grand drogman, de drogman de la flotte, etc. Les Français, la diplomatie française a repris le terme et c'est pour ça qu'on trouve le truchement dans Molière, par exemple.
Et Saint-Simon l'utilise pour parler des voyages de Louis XIV.
Voilà. Et donc, le fait est, c'est que il faut se reposer toujours la question, même par rapport à l'intelligence artificielle, c'est quoi le passage ? Donc, si vous voulez traduire un texte très technique, évidemment, l'intelligence artificielle va vous faire ça très bien, parce qu'il suffit de remplir les corpus, parce qu'il faut savoir que on ne traduit pas par l'opération du Saint-Esprit, mais avec énormément de documentation.
Ou alors par des dessins. Si on prend les fiches de montage de IKEA qui sont dans toutes les langues, en fait, ouais, c'est que des petits dessins. Et donc, on en revient aux hiéroglyphes des Égyptiens. On n'a même plus besoin d'avoir une langue commune.
Je ne sais pas, parce que si vous avez déjà monté une étagère IKEA, vous savez très bien que la première chose qu'on fait, c'est de la monter à l'envers.
Mais d'accord. Donc, on peut comprendre de travers à l'envers si c'est traduit par l'intelligence artificielle, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une culture derrière la langue. La langue, ce n'est pas simplement comprendre, mais c'est aussi un apport culturel.
Oui, et il y a tout un système de connotations. Donc, évidemment, je vais prendre un exemple très simple. Comment traduire le mot citizen en anglais ?
Kane.
Et puis, on arrive à citoyen en français. Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce que, en fin de compte, le système connotatif du terme n'est pas complètement calqué l'un sur l'autre. C'est-à-dire que...
Ce sont ce qu'on appelle des glissements sémantiques,
Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les champs sémantiques ne se recouvrent jamais parfaitement. Peut-être si pour le chien, dog, chien. Mais, ou bien pour... même pour les tasses, il y a beaucoup à dire. Hein. Mais sur le mot citoyen, ça va être exactement ce que la personne qui parle comprend par le mot citoyen. Or, les concepts de citoyenneté sont différents d'un pays à l'autre, d'une culture juridique à l'autre, d'une culture politique à l'autre.
Alors, vous savez quels sont les trois mots qui sont communs aux 27 ou aux 28 pays, si on prend encore le Royaume-Uni, de l'Union européenne ? J'avais fait une petite recherche.
Dites-moi.
Alors, il y a Coca-Cola, il y a McDonald's et il y a démocratie. Alors, c'est quand même assez intéressant parce que, bien sûr, la notion de démocratie est différente d'un pays à l'autre et beaucoup. Alors, sauf la Finlande où il n'y a pas... Mais autrement, tous les autres mots, il y a la sonorité, en tout cas, démos, kratos, du grec et tout. C'est très rassurant hein, comme réflexion, comme recherche.
Oui, parce que je pense qu'effectivement, finalement, on en revient toujours à l'idée de démocratie telle qu'elle a été élaborée à Athènes. Hein. Et bien que les démocraties dans lesquelles on vit actuellement ne sont pas identiques à la démocratie athénienne, mais je pense que ça fait aussi un rapport avec des classifications sur l'évolution des systèmes politiques où on pouvait passer de la démocratie à la démagogie, par exemple. Donc ça reste très moderne, comme on le voit sans arrêt.
Alors comme on parle d'Athènes, parlons aussi des Romains. Jules César, lorsqu'il était en Alsace, est-ce qu'il avait des interprètes ? Est-ce qu'il avait des truchements ?
Sûrement.
Est-ce qu'il existe des dictionnaires, latin triboc, hein, puisque les triboc, c'était les tribus qui vivaient chez nous, là, en Alsace. Est-ce qu'on a trouvé, dans la guerre des Gaules, il n'y a aucune allusion à un problème de langage ?
Non,
Et les Gaulois parlaient tous des langues différentes, donc c'est...
Bon, à mon avis, c'est mon avis à moi, hein. Je pense tout simplement que l'Empire romain comprenait tellement de... Justement, être citoyen romain, c'était pas du tout ethnique, hein. Et donc, en fin de compte, ils avaient un réservoir de gens qui parlaient... toutes les langues.
Dans les légions,
Des provinces annexées par l'Empire romain. Ça, je pense que c'était pas un problème.
Oui.
Et surtout que le latin devenait la lingua franca, donc traduire en latin pour des gens qui étaient originaires de régions où ils avaient leur idiome ne posait pas de problème.
Région, c'était Brumath. Brumath qui avait... C'est seulement après qu'il y a eu le camp place du château à la cathédrale. Mais voilà. Et alors Jules César, il a chassé les Suèves de notre région, hein. Et il les a envoyés de l'autre côté du Rhin, je ne sais pas comment, à la nage, parce qu'il y avait...
Il leur a fait franchir un Rubicon.
Un Rubicon alsacien, voilà. Et alors, puisqu'on fait un peu d'histoire, le serment de Strasbourg,
oui.
En 842, entre Charles II, alors ça c'est le français, et Louis II, c'est Bavière,
hein, oui.
Contre leur frangin,
Lothaire
Ier, c'était une alliance, mais une alliance basée sur le langage.
Oui.
C'est-à-dire que, voilà, et c'est comme ça qu'on dit que c'est comme ça qu'est née la langue française.
Et la langue allemande.
Et la langue allemande de l'autre côté.
Oui, ce sont les premiers textes en français archaïque et en allemand archaïque, à mon avis. Donc, c'est toujours impressionnant de voir comment une langue qui devait exister s'officialise, en fin de compte. De
même, mais elle s'officialise pour des raisons politiques, là.
Complètement.
Et de conquête. Mm. C'est-à-dire, vous ne parlez pas la même langue, donc vous êtes un ennemi. Même si c'est le frangin.
La dislocation de l'Empire de Charlemagne.
Oui.
Karl der Große.
Voilà. Mais pas toujours, parce que la Décapole, hein, qui en fait était 12 villes en Alsace, 1354, ils parlaient tous des langues différentes. Parce qu'il y avait Landau, Wissembourg, Haguenau, puis au sud, il y avait Colmar et Mulhouse. Ils ne parlaient certainement pas la même langue.
Oui, ça devait être des variations quand même. Hein.
Oui.
Je pense qu'ils se comprenaient.
Oui, mais c'est comme si on disait que les Haut-Rhinois et les Bas-Rhinois parlent la même chose.
Faut pas... Oui, je sais qu'il ne faut pas le dire ni à un Haut-Rhinois ni à un Bas-Rhinois, mais à mon avis, ils se comprennent.
Hartzäpfel et Krumper chez nous, dans le Bas-Rhin. Voilà.
Oui. Oh, mais vous savez, en italien moderne, on n'appelle pas la pastèque de la même manière dans le nord de l'Italie et dans le sud. Hein.
Oui.
Donc, je pense que les variations, on les a en français aussi. Hein. Nous, on demande un sachet, les Toulousains vont demander une poche.
Alors justement, au XIXe siècle, hein, on fait un petit bond. Les gens comme Stendhal, par exemple, qui ont voyagé partout en Italie, hein, vous me tendez la perche, il parlait quelle langue avec les Italiens? Il a appris l'italien
Écoutez, je ne me rappelle pas de ça.
Ou les Italiens parlaient français?
Oui, alors évidemment, puisque, comment dire, les Français ont joué un rôle d'envahisseur en Italie, on le sait. Hein. Alors, plus ou moins bienvenus. Et les dernières occupations sont venues avec, le général Bonaparte, hein, qui a laissé des souvenirs mitigés. Pareil avec les Angevins. C'est toujours très compliqué, là aussi. Par exemple, Napoléon n'a pas laissé un très mauvais souvenir à Venise parce qu'il a libéré le ghetto, puisqu'à l'époque, étant un général de la Révolution, il a appliqué les idées de l'abbé Grégoire. Hein. Et donc, libérer le ghetto à Venise. Mais par ailleurs, c'était quand même une armée d'occupation.
Oui,
donc, oui probablement, au XIXe siècle, la plupart des gens éduqués, disons, parlaient français.
Ou parlaient plusieurs langues. Mm. Justement, au XIXe siècle, Flaubert, son premier voyage en Égypte avec Maxime Ducamp, donc 1850, 52, oui. Il explique, parce que ses carnets sont formidables, qu'il n'avait pas besoin de langage pour se faire comprendre par les danseuses.
Oui, moi, ça, je pense que... Là. Oui, ça, je pense qu'il utilisait...
Son charme.
Son charme, oui, voilà. Alors, indéniable. Oui.
Louis XIV, lorsqu'il est arrivé, alors on dit que c'est à Saverne, hein, mais enfin, il venait des Vosges, il voit la plaine d'Alsace et il dit... quel beau paysage, quel beau jardin, je crois qu'il avait dit. Il l'a dit en quelle langue? Qu'est-ce qu'on parlait à l'époque de...
Il l'a dit en français de l'époque.
Hein. Oui.
Puisque la langue française, en fin de compte, c'est la langue d'Oïl, hein, qui a gagné du terrain sur la langue d'Oc dans notre beau pays. À cause de la longévité de la dynastie, qui était quand même une dynastie du nord de la France, donc du pays d'Oïl.
Oui, et en disant « l'État, c'est moi
oui. »,
c'était aussi une façon de dire « vous venez tous à la cour, on détruit votre château pour que vous ne reveniez pas avec votre petit langage spécifique, et donc votre pouvoir spécifique ». Et donc, est-ce qu'il y avait déjà une volonté de diffuser la langue française partout?
Oh, je pense absolument, parce que c'est probablement le pays qui a été le plus bulldozer, disons, sur les langues régionales, hein. La France. Hein. Donc, Il faut remarquer que dans bien des pays européens, il y a encore énormément de dialectes. Et je vais reprendre l'exemple italien, qui est un pays relativement jeune. Quand j'étais jeune, c'est-à-dire dans les années 70, etc., quand j'allais en Lombardie, par exemple, je ne parle pas de Milan parce que c'est une grosse ville, mais dès qu'on sortait de Milan, on parlait un dialecte lombard, on ne parlait pas italien. Et de même, à Naples, ça continue aussi. Moi, j'ai du mal à comprendre les Napolitains. Entre eux, ils parlent pas forcément italien. C'est-à-dire toscan, en fin de compte.
On dit que le service militaire était aussi une époque où, justement, on abandonnait sa langue locale, régionale, pour avoir une unité. Alors, en 14-18, par exemple, les soldats français, mais je suppose que c'est la même chose pour les Allemands, ils parlaient la langue de leur village pour comprendre. Et les seuls mots qu'ils comprenaient en français... c'était à l'assaut, quoi, ou le coup de sifflet. Voilà. Mais autrement, et quand ils écrivaient chez eux, on a retrouvé dans les écrits, effectivement, c'était encore une période où l'on parlait la langue de son village ou de sa région.
C'est clair. Moi, j'avais un ami allemand de Hanovre qui se prétend être la région, enfin la Basse-Saxe, où on parle l'allemand, le Hochdeutsch le plus pur. Il se moquait un peu des Bavarois en disant qu'il parlait l'allemand des montagnes.
Alors, j'ai cherché dans le Trévoux, le dictionnaire des Jésuites du village de Trévoux, qui a été publié à partir de 1704, mais la publication s'est terminée jusqu'au règne de Louis XIV. Et alors, j'ai trouvé cette définition précise. Donc, truchement, on peut l'écrire M-A-N ou E-N-T à la fin. Interprète nécessaire aux personnes qui parlent diverses langues pour se faire entendre les unes les autres. Alors, entendre, c'est
comprendre,
assez...
Comprendre, ça veut dire comprendre.
Ça veut dire comprendre, justement. Ouais. Et les ambassadeurs sont toujours accompagnés de truchements. Voilà. Et alors, donc, le Trévoux dit que c'est d'une origine arabe ou chaldéenne, mais peut-être aussi gauloise. Alors, je trouvais ça un petit peu fantaisiste. Oui. Du verbe « trucher ». Et le verbe trucher qui était utilisé par les gueux et les vagabonds qui, ayant couru les pays voisins, en savaient la langue. Alors, le mot est encore utilisé faire la manche par paresse. Trucher, on peut utiliser le mot, veut dire faire la manche par paresse. Voilà.
Oui, bon, j'ai des doutes sur l'origine gauloise parce qu'en fin de compte, ça a l'air quand même. Les gens ont l'air d'accord pour dire que ça vient vraiment de l'arabe et que le terme tourjuman, qui a fait drogman, a fait truchement. Et donc, si on l'orthographie ENT, c'est effectivement parce qu'on l'a complètement francisé, mais il y a quand même. Peu de doute que c'est aussi les habitudes de l'Empire ottoman d'avoir un poste officiel de grand truchement, si on peut dire, et qui a permis au mot de se diffuser, notamment en France, en se francisant.
Oui. D'ailleurs, la définition est accompagnée d'un petit mot fantaisiste. Donc, effectivement, peut-être que c'est un jésuite un petit peu rigolo.
Facétieux. Ils sont facétieux.
Parce qu'il le rapproche de l'allemand trigen ou truger, tromper.
Oui.
Alors, tromper, c'est intéressant. Interpréter, c'est tromper. C'est possible, ça?
Oui, on dit toujours traductor et traditor, ou bien traduction, trahison. Je pense que c'est un faux débat, parce que, à vrai dire, si on y pense bien, mais ça, c'est quelque chose à laquelle j'ai essayé de réfléchir, dès qu'on lit quelque chose, donc quand c'est de l'écrit, ou qu'on écoute quelque chose, on l'interprète déjà. Si vous voyez, par exemple, les témoignages des gens sur une même histoire, enfin, sur un même événement, ils vont tous être différents. Ils vont trier automatiquement...
ils vont trier
ce dont ils se rappellent. Donc, je pense que la traduction trahison, c'est... en fait, quand on lit une version de quelque chose qui est indicible et ineffable, Je voudrais juste mentionner à cet égard l'excellent dictionnaire des intraduisibles, hein, vocabulaire des philosophies européennes de Barbara Cassin.
Académicienne.
Ouais, et son article sur la traduction qui est très intéressant. Et on parle de l'indétermination du fait de traduire. La traduction, c'est traduire une indétermination. Et donc, c'est pour ça que j'ai des doutes sur... disons la capacité à l'intelligence artificielle de remplacer l'être humain complètement dans cet exercice. D'autant plus que souvent, les gens utilisent, et là je reviens à ce que j'ai dit au début, le mot citoyen, comme ils ont envie de l'utiliser. C'est-à-dire que si nous étions tous exacts dans notre manière de nous exprimer, l'intelligence artificielle, c'est parfait. Mais le fait est, c'est que nous
interprétons déjà l'interprétation. Alors, je suppose que vous êtes une grande lectrice de James Joyce.
Oui.
Avez-vous lu, chère Claire Pedotti, Finnegan's Wake?
Oui, alors j'ai...
Et dans quelle langue?
Alors, je l'ai lu en anglais.
Ah oui.
Parce que je suis angliciste. Hein, c'est pas facile. Hein, c'est pas quelque chose qu'on lit comme un roman, j'allais dire.
On dit que c'est impossible à lire en anglais.
Et parce que qu'il fait des mots valises. Hein.
Oui, ça a été traduit par Philippe Lavergne.
Oui, mais hein, c'est un travail incroyable.
Hein. Il a mis 20 ans à traduire, et les grands spécialistes, même les Britanniques, hein, je connais un Irlandais, qui est, je peux citer un Britannique, c'est Julian Barnes, qui est parfait francophile, et qui m'avait dit « je l'ai lu en français pour le comprendre ». Je n'arrive pas à le lire en anglais.
Moi, je ne suis pas sûre qu'il y a... peut-être que c'est mon amour des mots qui fait que je ne cherche pas forcément un sens à tout ça. J'admire le tour de force des mots valises, hein, etc. Maintenant, quand on parle de traduction, il y a ce qu'on appelle les belles infidèles. Donc, par exemple, les traductions d'Edgar Poe par Baudelaire qui ont relancé Edgar Poe comme un auteur majeur aux États-Unis. Or, la traduction de Baudelaire n'est pas toujours exacte, hein, mais il a su lui insuffler un génie qui lui était propre, de même que Goethe reconnaissait que la traduction de Faust par Gérard de Nerval, il me semble, était...
Fantaisiste, enfin...
Non, oui. il l'admirait énormément.
Oui.
Donc là-dessus, je pense que l'émission est trop courte pour aller dans ce genre de... mais il ne faut pas oublier que parfois, c'est grâce à la traduction qu'un auteur, par exemple, comme Italo Svevo, en Italie, qui avait abandonné l'écriture, vu le peu de succès qu'il avait, a été en quelque sorte repêché par Valérie Larbaud, grâce aux traductions qu'ils ont fait de la Coscienza dei Zen.
Alors, Madame Bovary est un des romans qui est le plus traduit dans le monde entier. Souvent des traductions qui ont été faites dans les années 1920-1930 à partir du russe. Donc ça fait donc voilà. Il faut savoir que la première traduction de Madame Bovary en anglais après la mort de Flaubert, donc 1884, donc c'est quand même assez bizarre que ça n'ait pas été traduit avant en anglais, mais l'anglais à l'époque ne prédominait pas le monde. Ça a été fait par la fille de Karl Marx, Éléonore.
Oh,
oui.
Génial.
Et elle en a fait une pauvre victime de la société, bien sûr. Voilà. Et non pas l'apologie de l'adultère, comme dans d'autres traductions. Et en russe, c'est Tourgueniev qui s'est débrouillé pour que l'on garde la beauté de la langue et non pas de l'histoire.
Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Il n'y a pas une traduction. Je veux dire, je rapprocherai la traduction, l'interprétation... des interprètes musicaux. D'ailleurs, ce sont ceux qui comprennent le mieux notre travail.
Exactement.
Parce qu'en fin de compte, on fait un choix d'interprétation. Bon, surtout en matière de littérature, hein, parce que pour le reste, ce qui compte, c'est d'être exact et clair. Mais en littérature, les œuvres d'art sont polysémantiques. Hein. Et donc, le traducteur fait son choix. Par exemple, je me rappelle avoir entendu Jacqueline Risset, qui a fait une très, très belle traduction, La Divine Comédie, dire qu'elle avait privilégié la rapidité du vers de Dante, qui est un vers qui n'est pas père, hein, et qui donne un sentiment de dynamisme, hein, pour sa traduction La Divine Comédie, en réduisant l'appareil de notes aussi. Donc là, vous allez trouver d'autres traductions qui seront peut-être différentes, plus savantes, qui seront très
avec
bien...
Avec des partis pris, carrément.
Oui, il y a des partis pris. Bon, puis il y a des gens qui font n'importe quoi aussi. Hein.
Oui. Bon, les éditeurs, parfois, poussent un peu. À l'Université de Rouen, une très grosse association qui s'appelle Les Amis de Flaubert, qui fonctionne depuis 30-40 ans, les principaux, disons, contributeurs, ce sont des universitaires japonais. Les Japonais sont fanatiques de ce qu'ils appellent la dentelle de l'écriture de Flaubert.
Ça ne m'étonne pas.
Et il y a 9 traductions différentes en japonais de Madame Bovary. Donc, il y a 9 débuts différents. C'est formidable.
Je trouve ça formidable.
Ah oui, c'est génial. Ça donne... c'est l'optimisme de la vie, quoi. Qu'on soit capable de faire cela, ça veut dire que le monde tourne encore bien, quoi.
Oui, et...
La beauté de non pas de l'inutile ni du futile, mais de la célébration de la beauté.
Oui, et la célébration de l'indétermination, effectivement. Je veux dire, chaque lecture, vous le savez vous-même, Ambroise... puisque je partage votre amour de Flaubert.
Cher Claire Pedotti.
On le lit à 16 ans, on le lit à d'autres âges de la vie, et encore à 60 ans, on va le lire différemment.
Oui.
Et donc, l'interprète, c'est ça, le traducteur, c'est ça. Je veux dire, chers auditeurs, n'hésitez pas à relire et relire.
Absolument. Mais vous savez qu'au Japon, lorsque l'on casse une tasse, on la recolle, mais on met en valeur la colle qui montre la brisure, hein, la cassure, alors que nous, en France, on aurait plutôt tendance à la réparer en disant, tu vois, on ne voit rien, c'est bien, voilà, ça c'est intéressant. Alors, une dernière question, puisque notre émission fait l'apologie du temps perdu et du jeu du hasard, mais... c'est une question qui est non pas à la littéraire mais à la cinéphile que vous êtes. Faut-il lire les livres en langue originale si on comprend la langue, ou alors faire confiance à un traducteur? Bon, ça, on a à peu près répondu à la question. Mais les films, est-ce qu'on les voit en VO sous-titré en français, ou est-ce qu'on les voit en doublage? Parce que les doublages, parfois, sont très bien faits. Parce qu'il y a des bons acteurs.
Là, je vais répondre très personnellement. Je déteste le doublage.
Moi aussi.
donc, moi, je dirais simplement qu'une chose, c'est qu'une langue, c'est une musique. Hein.
Mm-hmm.
Et aussi, elle correspond à des gestes. Par exemple, j'ai toujours été très déçue par le doublage des films italiens en français, où on met une gesticulation dans la voix qui n'existe pas en italien. Tout simplement parce qu'on considère que les Italiens font beaucoup plus de mouvements quand ils parlent, et que la voix doit avoir cette même frénésie. Or, souvent, ils ne l'ont pas. Et donc, moi, je suis absolument pour garder la musique, et il faut faire confiance aux traducteurs.
Aux réalisateurs, oui, mais parfois, quand même, pour l'Italie, par exemple, Fellini... On sait qu'il enregistre les dialogues après, au montage du film. Il fait dire à ses acteurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il s'en fout de la synchronisation labiale. Et donc, il pourrait le faire ensuite en français, en allemand,
non,
en espagnol.
Parce que si vous voulez, j'ai assisté au même débat sur, par exemple, doit-on voir un opéra? Vous savez qu'au départ, à l'opéra, on traduisait les livrets. Et il y a certains compositeurs comme Verdi, par exemple, qui ont écrit Don Carlos en italien, mais aussi en français. D'autres, Rossini, enfin, etc. Mais moi, je considère que c'est une grave erreur. J'ai écouté il n'y a pas longtemps par des chanteurs magnifiques une Carmen en anglais. Excusez-moi, c'est vraiment pas beau. Tout simplement parce que la musique s'accorde à la langue. C'est-à-dire qu'un compositeur, il utilise la langue aussi comme élément musical.
Conservons notre langue. Et la langue, c'est pas seulement le temps perdu, c'est la fin de cette émission. C'était l'épisode numéro 79 de « Vous l'avez bien connu » avec Claire Pedotti. Diffusion tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi à la technique Thomas Marinelli, et mon nom, alors c'est un très vieux patronyme vosgien, c'est Ambroise Perrin.